Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Nous commençons par Nelisha et puis Ginette.
Pasteur, moi j'ai pas très bien compris. J'ai pas très bien compris le troisième, je crois, ou le quatrième point concernant, en fait, je crois, c'est, enfin, pour résumer, l'idolâtrie. Comment, en fait, j'arrive pas à faire le lien. Comment une personne, en fait, qui devient idolâtre d'une personne peut, en fait, après rentrer dans la sorcellerie. J'ai pas très bien compris.
Premièrement, le fait de considérer que la puissance qu'a un homme vient de lui, donc je commençais, c'est la phrase que j'ai donnée. Le fait de considérer, donc l'adoration d'un homme, c'est-à-dire considérer cet homme-là comme Dieu, c'est-à-dire la puissance qu'il a en lui vient de lui. Donc c'est déjà une erreur grave. Ce qui fait que quand on, comme Dieu dit qu'il ne donnera sa gloire à personne, quand toi tu es en contact avec cet homme, tu ne recevras pas ce qui est de Dieu. Tu recevras ce qui n'est pas de Dieu. Si cet homme est vrai, tu recevras des esprits d'alentour et cela peut t'amener petit à petit à commencer à croire en des hommes plutôt qu'en Dieu lui-même. Et un jour ou l'autre, tu finiras par tomber sur un homme qui est vraiment mauvais et qui te communiquera sa sorcellerie parce que tu prends sa puissance comme étant celle de Dieu.
Donc, en fait, même si, enfin, après, sachant que c'est vrai que l'idolâtrie en soi-même est quelque chose de mauvaise, donc une personne qui idolâtre, on va dire même quelqu'un de bien, ça veut dire qu'après, au fur et à mesure, comme elle est rentrée dans cette logique-là, le jour qu'il tombera sur quelqu'un de mauvais, cette personne lui communiquera.
Oui, tout ce que j'ai cité, c'est des portes. Je n'ai pas dit que quand quelqu'un était dans l'une ou l'autre de ces choses, automatiquement, il devient sorcier, hein. Donc, c'est des portes d'entrée
D'accord.
à l'occultisme et à la sorcellerie. Et après, chacun a son chemin. Il y a des gens que Dieu reprend. Mais ce sont des portes. C'est-à-dire, vaut mieux qu'on les ferme avant d'attendre d'aller loin et de revenir, quoi. C'est ça le but, hein. Je ne veux pas dire que tout ce que j'ai cité fait de quelqu'un qui est dans l'une ou l'autre de ces choses, quelqu'un qui est sorcier ou qui est occulte volontaire. Mais ce sont des portes d'entrée dans l'occultisme et la sorcellerie. Oui.
Dans la parole, dans Hébreux 11:1, ça dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. » Quand on a la foi, on demande quelque chose. Ma confusion a déjà été, est-ce qu'on est déterminé, puis on dit, comme j'avais déjà lu dans les livres comme Yonggi Sho, tout ça, « Seigneur, je veux un vélo rouge, de telle sorte, comme ci, comme ça. » Et ça, c'est la foi. Et on attend que ça arrive. Et moi, j'ai déjà entendu que si on était comme ça, on était aussi présomptueux. Peut-être que Dieu, c'était pas sa volonté. Donc, des fois, j'avais la difficulté à savoir, Seigneur, est-ce que je fais que dire que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, tu connais mes besoins, que ta volonté soit faite, ou que je dis, Seigneur, j'aimerais savoir ça, comme ci, comme ça, précisément. Parce que il y a des gens qui disent, si tu dis tout simplement que ta volonté soit faite, c'est un manque de foi. Parce que tu n'as pas une image de ce que tu veux. Oui, j'ai une image de ce que je veux, mais bon, je veux que la volonté de Dieu se fasse par-dessus. Tu comprends?
Oui, moi, je pense qu'on doit faire les deux. On demande à Dieu ce qu'on veut précisément. Et on finit la prière, mais que sa volonté soit faite. Donc, dans notre cœur, on sait que si Dieu ne me donne pas ce que j'ai demandé, donc c'est que, comment dire, il a un autre objectif pour moi. Je suis contre, effectivement, les gens qui restent bloqués par ce qu'ils ont demandé. Du moment qu'ils n'ont pas ce qu'ils ont demandé, ils ne sont pas bien. Ça, ce n'est pas normal. Parce que ça produit la tristesse, ça, ce n'est pas de Dieu. Par contre, je suis contre aussi les gens qui ne demandent rien, qui disent seulement que la volonté de Dieu soit faite, ça c'est un manque de foi. Donc il faut demander avec précision. Et même quand Dieu ne donne pas, lui demander pourquoi tu ne m'as pas donné à lui, ça prouve que tu comptais, tu crois vraiment qu'il peut agir. Et quand il répond, c'est pas ma volonté, eh bien, on est prêt à accepter ce qu'il nous propose. Et quand il répond, c'est ma volonté, je donnerai à un tel moment, on attend, voilà. Je préfère ce dialogue-là avec Dieu.
Parce que c'est une question, en fin de compte, de discernement.
Oui, voilà. Nous revenons toujours à cela.
OK. Parce que des fois, on est influencé par d'autres personnes qui vont dire, ah, t'as manqué de foi, t'as eu.
Voilà. Non, c'est le discernement qui compte. Mais la foi ne doit pas être tuée. On doit être prêt à demander ce qu'on veut. Maintenant, si on n'est pas satisfait au bon moment, on dit, Seigneur, j'ai demandé, où est-ce que ça en est? Et c'est ce que je reproche souvent à des chrétiens qui n'ont pas reçu des réponses à ce qu'ils ont demandé. Ils laissent passer. Bon, Dieu sait ce qu'il va faire. Non. Est-ce que tu lui as quand même posé la question pourquoi il ne t'a pas donné? Parce que tu risques de rester dans une tristesse ou dans une insatisfaction que tu n'avoues pas par crainte de passer pour un petit chrétien, mais qui est en train de te ronger, autant en finir et dire à Dieu, mais pourquoi tu ne me donnes pas, et qu'il réponde.
Et puis, il y a eu l'inverse, où est-ce que tu te bats avec quelque chose? Ou...
Ça, c'est mauvais.
Et là, ben là tu forces, tu joues avec Dieu, et Dieu tu peut forces, venir par dire, oui. Bon, ben je vais lui donner ce qu'il veut, mais il va avoir un mauvais résultat à la fin. T'sais.
Voilà, les gens qui se bornent, qui ne veulent pas changer, c'est aussi dangereux. Quoi. Donc, quand Dieu ne répond pas, il faut quand même avoir l'humilité de lui dire, pourquoi tu ne réponds pas? Mais il y a des gens qui disent, non, mais c'est écrit comme ça, il doit faire. Donc, ils font de Dieu, ils lisent Dieu, mais il a dit que tout ce que je demande, il va me le donner. Il n'a qu'à faire. Mais non, 1 Jean 5, 14, 15 dit, selon sa volonté aussi. Donc, il ne faut pas qu'on oublie ça.
Parce que quelqu'un m'avait déjà dit, il faut être combattant. Il faut être combattant dans la foi, ce qui est normal. Mais des fois, tu ne sais pas si tu es présomptueux ou combattant.
Il y en a qui, voilà, mais Dieu nous parlera, hein, il nous montrera qu'on est présomptueux. Je crois que beaucoup de présomptueux se sont mordus la poussière, donc ils ont compris que c'était Dieu quand même qui était souverain, quoi. Oui, Johan.
Oui, pasteur, moi j'ai une question par rapport à la psychologie. Est-ce qu'il y a des liens entre la psychologie et la sorcellerie? Du moins, on sait que dans la parole de Dieu, tous les outils nous ont été donnés pour annoncer l'évangile, que ce soit la prière, les prédications, etc. Est-ce que on a besoin d'ajouter des sciences humaines pour expliquer Dieu ou la parole de Dieu ou l'évangile, etc. Et du coup, si on met un intermédiaire entre l'homme et Jésus, par exemple, est-ce que c'est pas une forme de recherche de puissance et de sorcellerie, donc?
Par rapport à la psychologie?
Oui.
Il y a une différence à faire entre la psychologie et la psychanalyse.
Oui.
C'est pas exactement la même chose. La psychologie est une...
Psychanalyse, pardon.
Ah, voilà. Parce que voilà, la psychologie, c'est une étude d'observation. On observe le comportement de l'homme.
Oui, la psychiatrie.
Ça, c'est différent. Oui. Mais la psychanalyse pense régler le problème de l'âme par des méthodes humaines. Et effectivement, ça, ce n'est pas normal parce que le problème de l'âme sont liés au péché et à des comportements contraires à la volonté de Dieu. Donc, ça ne peut être réglé que par l'évangile. Voilà.
Et donc, quelqu'un qui s'intéresserait à cette science humaine, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, qui penserait pouvoir aider...
aider les gens à travers ça.
À travers ça, tout en étant chrétien.
Ah oui, non, ça, c'est des gens qui ont perdu la foi. Oui, oui. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, c'est lui qui le guérit de toutes les maladies. C'est la parole de Dieu qui guérit des maladies de l'âme. Donc, ce n'est pas... la psychanalyse. Je sais que des gens disent, mais non, mais il y a certaines personnes qui ont des problèmes sérieux, il faut... Mais non, il y a toujours eu, avant Freud, il y a toujours eu ce genre de cas-là, des gens qui ont des problèmes sérieux. Dans les années 1600, Freud n'existait pas. Il y a toujours eu des gens avec des cas compliqués. On a essayé toujours d'en prendre soin humainement. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on manquerait des moyens de prendre soin de ce genre de personnes, quoi. Voilà. Puisque la psychanalyse, après, antenne... un contact avec le monde spirituel à travers l'hypnose, beaucoup de choses, le fait de te pousser à faire des voyages dans ton passé. Donc, on te fait entrer dans le monde spirituel sans que tu t'en rendes compte. Et après, le diable te saisit, c'est fini, quoi. Voilà. Oui. Le frère, oui? René, oui.
Pasteur, on entend souvent parler de magie noire et de magie blanche. Quel est le tronc commun entre les deux?
Alors, la magie blanche, elle est censée faire le bien. C'est-à-dire que je trafique avec le monde des esprits pour faire du bien aux autres. Alors que la magie noire, je trafique avec le monde des esprits. Donc, ça n'a rien à voir avec les humains. Ça n'a rien à voir avec les noirs humains et les blancs humains. C'est juste des termes de la magie qui... Quand tu es dans un domaine de magie blanche, donc tu es censé, je dis bien, censé apprendre des techniques de trafic avec le monde spirituel pour aider les gens. Et quand tu es dans la magie noire, tu es censé pouvoir aussi jeter les sorts, tuer, faire du mal. Donc c'est ça un peu, c'est pourquoi on appelle magie noire et magie blanche, alors que toutes les deux sont noires. Oui.
Juste un détail là, par rapport à ce que le frère demandait. Le psychologue, il entre dans le domaine de la psychiatrie ou pas?
Non, non. C'est deux choses différentes. Donc la psychologie, c'est, je ne dis pas que je suis à 100% pour la psychologie, mais il y a une différence. La psychologie, c'est une science d'observation. C'est-à-dire que c'est comme on peut dire qu'un enfant, quand il a 2 ans, il se comporte de telle manière. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé. On a constaté ça, les gens qui ont eu des enfants, qui ont des enfants, ont constaté la même chose. On a consigné ça dans le comportement, l'étude comportementale de l'homme. Donc on a observé et on consigne. Alors que la psychiatrie, la psychanalyse surtout, veut résoudre les problèmes de l'âme, dépression, tristesse, par des méthodes humaines. C'est ça la différence.
Donc en fait, quand tu as fait suivre à ton enfant des entretiens avec un psychologue régulièrement, tu l'as pas lié à quelque chose?
Non, je ne peux pas dire ça. Tu l'as peut-être lié, tout dépend de ce que ce psychologue a fait. Mais je parle des principes, je reste dans les principes. La psychologie, le but, c'est d'observer les études comportementales et dans faire une sorte de règles liées à ce qu'on a observé. Alors que la psychiatrie et autres, ça va plus loin que ça, quoi. Et la psychanalyse, ça va plus loin que ça. Voilà.
Une autre question, juste un détail. Quand on regarde, par exemple, des émissions telles que des émissions de cirque, où il peut y avoir, bon, il y a de la magie, ça, c'est clair que c'est de la magie, mais par exemple, des numéros comme des dompteurs, à partir du moment où ils peuvent dominer des animaux qui, normalement, ne sont pas dominés par l'homme maintenant. Ils étaient dominés par Adam, mais plus maintenant. L'homme ne peut plus dominer les animaux sauvages. Donc, des individus qui peuvent dompter des animaux sauvages, est-ce qu'ils le font par un trafic avec les esprits ou ils peuvent uniquement par une capacité?
Je ne sais pas. Donc, il y en a qui le font naturellement. Il y a d'autres qui le font avec de la magie. Donc c'est comme le football, il y en a qui le font naturellement, il y a d'autres qui le font avec la magie. Donc on ne peut pas savoir, sauf quand on est près de ces gens-là. Mais je crois qu'en général, ils doivent avoir un peu de quelque chose, parce que ce n'est pas facile aussi d'être près d'un lion. Hein. Donc en général, ces gens-là touchent un peu à quelque chose qui les rassure. Hein. Donc,
mais les gens qui ont des dons quand même étonnants ne trafiquent pas forcément avec des esprits.
Ah, j'ai oublié de parler de ça, les dons naturels. La plupart sont sataniques, sinon tous, quoi. Donc, les gens qui ont le don d'enlever le feu, quand quelqu'un est brûlé, des choses comme ça. En général, quand tu n'es pas chrétien, ça vient du diable.
D'accord.
Voilà, c'est ça. Mais, on peut être païen et vivre des expériences surnaturelles venant de Dieu, ponctuellement, mais pas régulièrement. Quand c'est régulier, ça ne vient pas de Dieu, parce que pourquoi Dieu choisirait un instrument impur pour y habiter, faire des choses? Non. Donc c'est quand, ponctuellement, oui, puisque Dieu parle comme il veut. Il a fait parler un âne. Voilà. Oui.
La magie est c'est un domaine spirituel.
Continue.
Oui, donc je voulais comprendre pourquoi Paul classe la magie dans le domaine charnel.
Oui, parce que ça commence là. Ça commence par la convoitise. Donc la magie commence là. Parce que tu veux posséder des choses, eh bien, tu vas commencer par un début de magie. D'abord dans un domaine normal, où c'est visible, tu as tellement soif de quelque chose, mais ça finit par le trafic avec le monde spirituel. Donc la magie commence par la chair. On se dit, bon tiens, quand quelqu'un par exemple dit, je vais dormir avec ma Bible sous l'oreiller, lui, il ne s'est pas dit qu'il va trafiquer avec le monde spirituel. Il est dans la chair. Sa soif de protection, sa logique religieuse le pousse à cela. C'est la chair. Ce n'est pas encore un trafic avec le monde spirituel voulu. Mais après, petit à petit, ça t'entraîne à cela. Donc, c'est pourquoi, justement, c'est ça qui est révélateur, que Paul mette ça dans les œuvres de la chair. Donc, ça montre qu'on peut commencer tout bêtement dans la sorcellerie par des petites choses qui sont des œuvres de la chair. On n'a même pas l'idée, certains même ne croient pas à l'existence des démons. Mais ils commencent par la chair et ils finissent vraiment dans le spirituel. Oui.
Donc on peut conclure que la religion emmène forcément à la sorcellerie.
La religion amène...
Ou bien peut amener.
Peut amener, oui, oui. Donc pas tout le monde n'arrive pas au niveau de faire des voyages astro forcément ou des choses de ce genre-là. Mais c'est des portes et puis chacun fait son parcours. Donc autant fermer les portes dès le départ. C'est ça le but de notre enseignement, quoi. Autant fermer les portes dès le départ. Et on va utiliser même cette question que tu viens de poser pour l'enseignement de demain sur la délivrance. Donc nous allons expliquer que justement, en réalité, le vrai problème, c'est la chair. Le monde des esprits n'est qu'un petit problème pour Dieu. Le vrai problème, c'est la chair. Donc on va expliquer ça demain pour dire que si Dieu peut nous libérer du vol, il peut nous libérer aussi de la sorcellerie finalement, parce que le vrai problème, c'est tout est basé sur nos convoitises charnelles, tout est basé sur l'orgueil, mais qui sont des choses charnelles. Et donc, on va revenir sur ça demain. Oui, oui.
Moi, je voulais savoir par rapport les traditions et les coutumes. Parce qu'en fait, dans mon pays d'origine, on va dire tout ce qui est fétichisme et tout ce qui est... comment ils appellent ça ? Fétichisme, c'est visible, c'est pas caché, quoi. Je veux dire, ça fait partie de la tradition. Il y a des fêtes rituelles où on n'appelle pas ça initié, mais où tout le monde regarde et la sorcellerie est faite visiblement. Mais en fait, c'est comme si les gens étaient voilés. On n'appelle pas ça la sorcellerie, on appelle ça des fêtes traditionnelles ou des fêtes de coutume. Et je veux savoir par rapport à ça, des personnes qui ont regardé ou qui ont... Parce que c'est même passé ça passe à la télé, c'est vraiment le président est invité et tout ça. Et je voulais savoir, est-ce qu'une personne qui a vécu des trucs comme ça doit passer par la prière, par la délivrance?
Oui, on doit prier pour cette personne qui a regardé dans une manière de spectacle, de vraiment regarder, pas dans une manière d'observer pour savoir ce qui se fait, mais vraiment, il a participé en quelque sorte. Donc c'est voilà quoi, c'est comme le film sur les extraterrestres. Voilà.
Donc en fait, le simple fait de pouvoir regarder ça, ça fait déjà en fait une porte ouverte.
Ah oui, oui. Ah oui, oui. Donc c'est que tu y crois en quelque sorte, tu apprécies d'une manière ou d'une autre.
D'accord.
Oui, oui.
Moi, je voulais savoir par rapport à ces portes, parce que lorsque par exemple on s'est converti et qu'on a été prévenu que voilà, vous avez peut-être fait ça dans votre passé, il faut fermer toutes ces portes, il faut briser un peu tout ça, est-ce qu'il faut le refaire après si on constate qu'il y a des choses qui vont pas, ou bien c'est fait une fois pour toutes, quoi?
Non, il y a des moments où on fait des choses juste parce qu'on nous a dit tu es converti, maintenant tu dois renoncer à ça, on le fait à la va vite, donc on le fait voilà, on le prend au vol comme ça, mais on ne voit pas la chose, la signification profonde, et il viendra un jour où, comme je l'ai dit, donc quand on est dans ces pratiques-là, c'est comme si on crée un fil entre nous et le monde du diable, un jour on va sentir ce fil nous retenir, donc c'est là qu'on nous explique profondément, mais voilà, c'est ce problème dans lequel tu as baigné pendant longtemps, mais tu n'y as pas vraiment renoncé parce que vois ton comportement, tu n'as pas de dégoût par rapport à ça, il y a un problème. Moi, je dis souvent, d'ailleurs, ce sera le sujet de demain. Donc, s'il n'y a pas une repentance véritable, il y aura toujours des blocages. Donc, il faut qu'il y ait une repentance. Comment on reconnaît que quelqu'un se repent quand il dénonce les choses dans lesquelles il était? S'il ne dénonce pas, il juste dit, c'était mauvais, on demande pardon. Mais il n'y a pas une vraie dénonciation, il n'y a pas un vrai rejet. Ce n'est pas une vraie repentance. Oui, Leslie.
Moi, j'ai deux questions. La première, pour revenir sur ce que Sœur Emmanuelle elle a dit tout à l'heure par rapport... aux trucs qui passent à la télé, même quand c'est par exemple un reportage comme ça qui passe par simple curiosité.
Oui, mais ça c'est différent. Justement, comme tu as dit, simple curiosité, c'est un reportage. Mais alors que là, je connais ce dont elle parle. Ça se fait chaque année.
Mais donc, dans les reportages, il n'y a pas de danger, puisque des fois, peut-être qu'ils récitent des trucs ou des machins, et puis on regarde.
Mais moi, quand je suis avec les enfants, je ne regarde, je ne peux pas, même des reportages comme ça, je ne regarde pas. Donc si je suis avec des personnes adultes ou moi tout seul, je sais que je regarde par simple curiosité parce que c'est tombé devant moi, mais Même moi, quand je vois que ça commence à traîner trop la simple curiosité, eh ben, je change de chaîne. Parce que quand on a vu ce qu'ils veulent faire, bon, on a déjà compris. Je ne vois pas pourquoi insister à regarder jusqu'au bout, quoi. Donc, le simple fait de voir ce que Dieu a voulu qu'on voit suffit. Donc, il faut discerner. Je dirais, il faut du discernement quand on est devant de tels reportages. Voilà.
Et la deuxième, c'est par rapport à une question par rapport à la prédication d'hier. Comment on peut attraper des choses par la nourriture? Par la nourriture.
J'ai dit que c'était des points de contact, la nourriture. Donc, lorsque on nous donne de la nourriture, eh bien, si Dieu ne nous demande pas, ne nous autorise pas à manger et qu'on mange quand même, il peut y avoir des attaques qu'on peut subir par rapport à cela. Et maintenant, il y a des gens qui vont vous dire, mais non, mais la Bible dit que rien de mal ne nous arrivera. Le mal ne nous arrivera si on est dans la volonté parfaite de Dieu. Mais si on n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, on a mangé par gourmandise ou bien par envie juste, y a des choses qui peuvent nous arriver sans que ça nous donne directement la sorcellerie si on est chrétien. C'est des choses qui vont nous freiner d'une certaine manière. J'ai l'habitude de dire que la porte, quand elle est ouverte, s'il n'y a personne, je passe facilement. Mais s'il y a même des enfants de 2 ans, s'il y en a 4, même si je suis plus fort qu'eux de loin, ils vont me freiner, ne serait-ce que 5 secondes. Le temps de les pousser, ça va me prendre même 5, 10 secondes. Je suis quand même freiné, même si après je passe quand même. Ce n'est pas comme si la porte était fermée. C'est la même chose. Donc, les sorciers vont utiliser ces points de contact pour nous affaiblir d'une manière ou d'une autre. La nourriture, un rêve qu'on t'envoie pendant la nuit, où tu es en face d'une personne belle, tous ainsi de suite. C'est des rêves qui t'envoient. Si tu mords à la maison, ils te freinent d'une certaine manière. Mais ils ne tombent pas totalement. Ils t'auront si tu prends plaisir pendant un certain temps. Ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc, ça crée quand même des petits obstacles qu'on pourrait éviter si on écoute le Seigneur.
Et par rapport à être toujours hier, quand on parlait de sorcellerie inconsciente, ça veut dire que la personne, par exemple, qui du jour au lendemain, elle se retrouve, aux États-Unis sans s'en rendre compte. Est-ce qu'elle était vraiment dans un état d'esprit de chercher quelque chose qui l'a fait que ça l'a amené à se retrouver du jour au lendemain quelque part sans qu'elle s'en rende compte, ou ça peut vraiment être de façon vraiment anodine?
Non, c'est des rêves. Tu rêves que tu es aux États-Unis, toi, tu crois que c'est un rêve. Mais quand ça devient régulier. Tu es tout le temps. Il y en a qui rêvent tout le temps qu'ils sont chez leurs parents, là où ils ont grandi. Régulièrement, c'est que il y a un rendez-vous là-bas. Donc, il faut qu'on prie pour toi. Donc, sûrement, il y a quelque chose qui t'a été fait là-bas. Parce que si c'est régulier, ça veut dire qu'il y a ton esprit là-bas. Il y a quelque chose. Je ne dis pas forcément que tu es sorcier ou conscient, mais il y a quelque chose. Tu dépends de cet endroit-là. Donc, il y a quelque chose. Après, dans la prière et dans le dialogue, le Saint-Esprit peut nous dire c'est quoi exactement.
Mais comment on peut se retrouver anodinement quelque part en commençant par la sorcellerie inconsciente?
J'ai pas compris là.
Comment en fait on peut se... La personne...
Mais oui, mais quand tu es né dans une famille...
Ah, ce serait plus par rapport à des héritages ou des trucs...
Oui, il y a des héritages. Mais après, j'ai dit qu'il y a aussi la séduction. Les démons peuvent nous envoyer des rêves. Ils peuvent nous envoyer des rêves où on est en train de prêcher devant une foule. Et on se réveille, on dit, oh, voilà mon avenir en tant que pasteur. Et ça arrive encore. Au lieu de se poser la question, oh, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi? Tu ne te poses même pas cette question. Tu te dis, voilà, Dieu m'a montré que j'étais en train de prêcher devant une foule. Oh, c'est un rêve envoyé par les démons. Donc, ça commence comme ça. Ça peut commencer comme ça. Et y a des gens, ils peuvent... prendre même l'image de ton mari ou de ta femme. Et toi, tu crois que c'est ta femme dans le rêve ou c'est ton mari, mais ce n'est pas ça. Et là, le Saint-Esprit vient te dire, non, ce n'est pas ça, réveille-toi ou bien réagis, quoi. Donc, c'est des pièges. Oui.
En fait, je voudrais savoir, en fait, c'est quoi, en fait, quel est le domaine, en fait, de l'usage de l'huile d'onction? Parce qu'il arrive qu'il y a des hommes de Dieu qui peuvent, en fait, prier... tu as une quantité d'huile qui plie sur ça et après tu utilises cette huile
pour faire quoi?
Tous les jours, en fait, je sais pas.
Tous les jours?
Bon, non, tu utilises cette huile là, en fait, tu utilises cette huile pour toindre, je sais pas moi, comme une protection. Est-ce que c'est,
ah, là, c'est la
quoi,
magie.
En fait, l'usage, en fait. C'était...
Là, c'est la magie. Donc, la Bible nous montre que quand tu es malade, on vient, on oint d'huile. Une fois pour toutes, c'est fini. Donc, mais quand on te donne une fiole d'huile à utiliser à la maison, magie.
Donc, si je comprends,
on te donne un tissu à mettre dans ta poche, magie. Mouchoir blanc à faire je ne sais quoi, magie. On ne guérit qu'au nom de Jésus-Christ. D'accord. C'est tout.
Donc, en fait, pour l'huile d'onction, c'est juste en fait l'autorité qui prie pour toi et qui toint.
Oui, il applique la Bible.
D'accord, mais pas qu'il te mette, il prie sur une quantité d'huile. Et que
il te donne une quantité d'huile, magie.
D'accord.
Oui, oui.
Et je voulais aussi savoir aussi, par rapport au don, je veux savoir quelle est l'attitude à avoir, en fait, parce que dans la Bible, il est dit de rechercher, en fait, des dons.
D'aspirer. Donc,
d'aspirer, comment, en fait, comment, pour éviter de tomber dans le piège.
D'aspirer, prier. Seigneur, je veux voir les miracles, je veux les expérimenter. Et tu t'arrêtes là. On te demande de faire ce qui est visible. La prière, tu l'entends. Seigneur, je veux des miracles. Mais maintenant que tu commences à rêver, quand je vais aller à Londres, peut-être qu'à l'aéroport, un paralytique va être là, je vais faire ceci. Il va se lever. Ah, là, tu commences à t'imaginer ton succès, ton monde spirituel. Ça, ce n'est pas de Dieu. On dit non, Seigneur, nous voulons que dans les hôpitaux de Normandie, quand on ira, on prie, que de voir ton nom, que des miracles se fassent. On s'arrête là dans la prière. On va dans l'hôpital, on prie. La personne a juste une petite chaleur. Gloire à Dieu. On continue notre chemin jusqu'à ce que, eh bien, ce qu'on a prié, on verra cela. On n'a pas à s'imaginer. Elle a commencé à poser la question à la personne. Comment tu sens ta jambe maintenant? Comme les gens, ils font lever les gens, ils te font passer devant. Alors, certains disent, ta jambe est plus courte qu'une autre. Ah, mais comment on peut vérifier ça? On n'a pas de maître ici pour vérifier. On te dit, est-ce que tu savais ça, frère? Toi, tu dis, oh, mais je ne savais pas. Et il fait un ajustement. Toi, tu dis, oh oui, c'est vrai. Et puis il dit, bon, tu vas voir, j'ai pris. Et ça se redresse, c'est faux, ça ne s'est pas redressé. C'était jamais court, mais parce qu'ils veulent... c'est de la manipulation. Donc, les miracles, ça ne se force pas. On prie et on s'attend à Dieu. Il n'y en a pas, on dit que Dieu soit béni. Il sait ce qu'il fait. Voilà. Les gens vont dire, mais tu n'es pas puissant. C'est vrai. Je ne suis pas puissant, c'est Dieu qui est puissant. Et il n'a pas fait, quoi. Donc, on attend quand il fera. Oui.
Quand il y a des délivrances, il est demandé... au démon qui est là, enfin à l'esprit qui est là plus exactement, qui il est, d'où il vient, comment il s'appelle, etc. Et ça, le fait de communiquer, de parler avec un esprit, est-ce que c'est pas quelque chose d'anormal, ça?
Je peux dire que quand ça devient un système, c'est anormal. Mais quand on s'est fait guider par l'esprit, puisque Jésus l'a fait, Jésus avait demandé le nom à l'esprit dans Luc 8, au chapitre 26, le démoniaque de Gadara. Jésus lui avait demandé quel était son nom. Donc, quand c'est guidé par l'esprit, et ce que nous, on a compris, l'esprit peut nous guider parce qu'il veut que cette personne-là prenne des précautions quand il se réveillera. Donc, quand elle se réveillera, qu'elle sache que, voilà, le danger vient de telle part, il faut que je fasse attention. L'esprit peut nous guider à poser des questions, mais si l'esprit ne guide pas, on chasse les démons tout simplement.
D'accord, voilà. Ça n'est pas quelque chose qui est fait
systématiquement. Non. Donc, celui qui prie ne doit pas considérer que c'est la seule façon de faire. Donc, on prie, on se laisse guider par l'esprit. S'il nous pousse à demander le nom de l'esprit, voilà, donc on demande. S'il ne pousse pas, ben on ne demande pas.
Et donc, si, par exemple, quelqu'un, dans une délivrance, essayait d'en savoir davantage, là, ce ne serait pas normal.
Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ça, et d'ailleurs, les démons sauront que tu cherches à savoir. Et quand ils savent que tu cherches à savoir, à travers eux, c'est la manipulation commence là. Donc, il ne faut pas leur donner cette occasion-là. C'est pourquoi il faut qu'on reste connecté au Saint-Esprit, s'attendre qu'à lui, quoi. Oui. Maxence.
Je voulais savoir, c'est quoi la magie, en fait?
C'est quoi la magie? Le trafic avec le monde des esprits. Quand tu commences
exemples.
À collaborer avec des démons, avec des esprits, à travers des prières, d'incantations, à travers toutes sortes... d'acte où tu t'attends au secours du monde invisible.
D'accord,
c'est ça la magie.
D'accord, c'est pas des puissances que tu manipules.
Tu crois les manipuler, mais c'est eux qui te manipulent. C'est elles qui te manipulent.
D'accord. Et j'avais aussi une autre question, c'est est-ce que c'est mauvais, par exemple, je sais pas comment dire, ça peut t'arrêter. Par exemple, si, est-ce que c'est mauvais si tu as des pensées dans lesquelles tu te vois évangéliser des gens, tu te vois te faire frapper, etc. Est-ce que c'est
quand ça vient pas de Dieu, c'est des rêves comme ça humains, c'est dangereux.
D'accord. Oui. C'est pas le Saint-Esprit qui peut nous montrer ce qu'on va subir, les persécutions qu'on va subir, etc.
Si c'est lui, c'est bien. Mais si c'est pas lui, donc c'est des rêves humains parce qu'on veut ressembler à ce qu'on voit des Actes des Apôtres. ça c'est pas bon. Mais si ça vient du Saint-Esprit, il n'y a pas de problème.
D'accord, mais comment est-ce qu'on peut savoir aussi?
En demandant à Dieu, ça vient de toi ou ça vient de moi? Il va répondre.
D'accord.
Ok. Là-bas, Clarisse. Ah non, où? Oui, voilà. Okay.
Oui, pasteur. Moi, j'avais. C'est pas une question, c'est. En fait, on m'a déjà signalé que mon nom avait été cité à plusieurs reprises dans des délivrances. Et j'ai prié pour ça, pour savoir par rapport à ça, en fait, parce que j'ai jamais réellement compris. Et. Jusqu'à aujourd'hui, mon cœur ne me convainc pas, en fait, d'être sorcier. Parce que, bon. Personnellement, à moins de l'être inconsciemment, je ne pense pas avoir fait un pacte quoi que ce soit. Par contre, ce que je trouvais, par rapport à la question que Leslie avait posée, c'est que je fais des rêves des fois, je suis là où sont nés mes parents. Enfin, j'ai vécu un peu, mais j'ai pas vécu longtemps. C'est vrai que je me suis posé la question. Pour comprendre ça, comme je cherche à comprendre tout songe, mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que je comprends toujours pas, en fait.
C'est une question quand même.
Oui, c'est une question, et en fait, la vraie question, c'est comment aujourd'hui je peux faire compris pour moi, parce qu'en fait, mon cœur, c'est comme si, bon, c'est une réalité que je prends au sérieux, parce que c'est une chose qui s'est manifestée, c'est qu'il ne faut pas le négliger. Mais en même temps, mon cœur, en fait, ne me convainc toujours. Enfin, c'est pas que ça ne me convainc
oui,
pas.
Mais je comprends, mais je crois d'ailleurs qu'on en a parlé, puisque oui. je te l'avais dit dans mon bureau, je t'avais dit, Dieu est tout-puissant. C'est ce qu'on doit croire, nous, en tant que chrétiens. Si on est chrétien, Dieu est tout-puissant. Donc aujourd'hui, on peut dire que je suis voleur, comme Dieu voit, mais Dieu démontrera que je ne suis pas voleur. Donc c'est cette confiance-là que je t'avais demandé d'avoir en Dieu qui te défendra si c'est faux ce qui est dit sur toi. Il te défendra clairement, comme il a défendu Jésus-Christ par la résurrection. Quoi. Ça ne sera pas un truc caché, ça sera démontré que tu n'es pas dedans. Et voilà, donc le conseil que je peux te donner, c'est la foi en Dieu. Dire, Seigneur, tu es ma justice, montre les choses telles qu'elles sont, parce que moi je n'accepte pas. Quoi.
Et par rapport à moi ou à d'autres personnes à qui ça pourrait arriver, quelle est l'attitude en fait à adopter aujourd'hui? Parce que
c'est la même que je viens de te donner.
Oui,
l'attitude de foi en Dieu. Que Dieu. Mais il faut savoir que nous tous, nous sommes de temps à autre vus autrement par des gens à gauche, à droite. Donc si il n'y a qu'une seule solution, c'est dire Seigneur, c'est à toi de démontrer les choses clairement. Donc, il ne faut pas se croire que... Donc, ça arrive à nous tous tel qu'on est là, même dans la famille. Il y a des gens, nous, on se croit bon, ils nous trouvent mauvais. Et donc, il y a un temps où Dieu leur montrera ce que nous sommes. On ne doit pas être pressé par rapport à ça.
D'accord.
Voilà. Parfois, ça prend des années. Oui, oui. On laisse changer la cassette. On vient me signaler. Oui, c'est bon.
Oui, maintenant, par rapport à ça, j'avais oublié quelque chose. En fait, c'est que, du coup, des fois, je suis bloqué, en fait. C'est que je vais faire des choses, même le fait de me réunir avec des gens pour prier. Et, enfin, ou alors, avant qu'on en parle, en fait, lorsque je suis venu vous voir, j'avais déjà une petite prière avec moi. Je les appelais, on était plus de 25. on se retrouvait chez moi, on priait, on chantait. Et puis aujourd'hui, pour faire quoi que ce soit pour Dieu, en fait, c'est comme si j'étais bloqué. Enfin, pas bloqué, mais il y a cette idée-là que moi, dans ma vie, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Enfin,
Moi, je reviendrai toujours à la prière à Dieu.
Oui.
Dire à Dieu, Seigneur, c'est quoi ta position pour moi? Dis-le-moi. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées. Nous revenons toujours à la foi.
D'accord.
Comme nous, il y a des gens dans la famille, quand ils ont appris qu'il est devenu pasteur, c'est faux. Et pendant 4 ans, 5 ans, ils considèrent que tu es un faux pasteur sans t'avoir vu. Mais un jour, ils te voient agir, ils disent, mais oui, mais tiens, c'est un vrai. Donc, un jour ou l'autre, Dieu finit par changer la conception. Et voilà, donc moi c'est une attitude de confiance. Savoir ce qu'on fait avec Dieu.
Amen.
Et si on, sait ce qu'on fait avec Dieu est correct, eh bien, on continue. Donc, c'est cela. Oui. Alors, la sœur... oui. Rapidement, puisque le temps passe là.
Oui, moi, la question que je voudrais savoir, c'est que quand il y a un parent ou la famille qui fait la sorcellerie et qu'il y a un bébé et il y a un enfant, et on a vendu cet enfant.
Et on a
vendu cet enfant.
Oui, oui, d'accord.
Est-ce que pour devant Dieu, un enfant normalement, et un enfant, si cet enfant meurt par rapport à ça, est-ce que cet enfant sera sauvé?
Ah, y a des choses que Dieu seul connaît. Voilà. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que Dieu est juste.
Oui.
Et il ne mènera pas en enfer quelqu'un qui ne doit pas y aller.
Non.
Donc, on doit lui faire confiance.
Voilà.
Oui. Oui, c'est bon. D'accord, on attend la caméra. D'accord.
Moi, j'ai une question qui rejoint un peu la question de la sœur, à savoir concernant les enfants, à quel stade un enfant est conscient de sa sorcellerie? Est-ce que déjà un enfant est conscient de sa sorcellerie?
Tout dépend de son âge, mais je crois que nous, ce qu'on a compris par expérience, c'est que c'est comme si l'esprit est plus mature que l'âge humain. Donc ça veut dire que quelqu'un peut être enfant 4 à 6 ans, mais dans son esprit, il est comme s'il avait 60 ans, il a une maturité forte dans ce monde-là spirituel. C'est ce qu'on a réalisé à travers certains événements, à travers certains contacts. On a réalisé que finalement, on peut être enfant physiquement, mais spirituellement, avoir une ancienneté, dirais-je, dans ce monde magique. C'est difficile à comprendre, mais c'est la réalité qu'on a constatée dans l'expérience. Voilà.
Et comment expliquer alors qu'un enfant peut, parce que j'ai déjà entendu dire qu'un enfant peut donner la sorcellerie à une autre personne. Comment cette autre personne peut être réceptive à la sorcellerie, en fait? Comment ça se passe?
Oui, mais là, nous revenons toujours au problème d'abord d'héritage, quand on est déjà dans une famille qui est polluée. Mais après, il y a toutes sortes de péchés qu'on peut commettre qui peuvent ouvrir des portes sur nous. Et le cas particulier des enfants est lié au fait qu'un enfant est sous la protection spirituelle de ses parents. L'enfant n'est pas indépendant physiquement ni spirituellement. Il est sous la protection spirituelle de ses parents. Et quand ses parents n'ont pas une attitude d'autorité sur cet enfant qui le couvre en quelque sorte, c'est des termes un peu vagues, mais j'espère me faire comprendre, eh bien, on peut toujours attaquer ces enfants-là, leurs enfants. Mais par contre, les adultes, il y a forcément un temps, comme on l'a dit, un temps où tu peux faire des rêves, un temps où tu peux expérimenter du surnaturel, il y a un temps où tu devrais te poser des questions et rejeter certaines choses. Mais si tu passes ce temps-là, tu commences à y croire, tu commences à prendre plaisir à ça, tu peut céder justement à devenir sorcier sans te rendre compte. Et puis il y a tous, par exemple, j'avais lu un frère s'était converti au milieu de nous. Il m'avait amené un livre des arts martiaux qu'il avait. Vous savez, la dernière phrase de ce livre, ça dit quoi? Maintenant, tu as appris certaines techniques spirituelles. Maintenant, si tu veux passer à l'étape supérieure, sache que ça sera au prix de l'évolution de ta conscience. Mais on ne dit pas, tu deviendras sorcier. On dit, ça sera au prix de l'évolution de ta conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu accéderas à un niveau supérieur dans, dans le voyage astro, dans le monde spirituel. Mais toi, tu ne le sais pas. Il y a des duperies de ce genre. Il faut se dire que le diable est menteur, il passera toujours par des duperies. Et nous, on consentira parce qu'on a des faiblesses humaines. C'est ce qu'on va expliquer demain en parlant de la délivrance. Finalement, dans tous les cas, nous revenons toujours à la chair. Ce sont nos faiblesses humaines de tous les jours qui vont nous amener à fricoter avec le monde spirituel petit à petit par séduction progressive. Donc, il faut qu'on fasse attention.
Et donc, un enfant peut passer à la délivrance?
Oui, s'il avoue.
D'accord. Donc, peu importe l'âge, un enfant est conscient, peut passer à la délivrance.
Par expérience, on a compris que l'enfant qui est dans ce genre de choses, son esprit réfléchit comme nous, quoi. Voilà. C'est pas un enfant dans cette logique-là, quoi. Il peut être un enfant, peut-être dans le fait de courir, de jouer, mais dans ce monde-là, il peut comprendre les choses comme nous. Voilà.
Oui, pasteur, encore une question. La définition l'enseignement que tu as apporté, moi personnellement, m'apporte une définition nouvelle de la sorcellerie. Je ne pensais pas que ça pouvait s'exprimer dans autant de domaines variés que ceux que tu as pu citer. Je pensais que c'était réservé effectivement aux sorciers africains ou le vaudou. Je me pose quand même une question. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque d'attribuer, de mettre la sorcellerie à toutes les sauces, dans le sens d'attribuer, lorsqu'on voit des failles chez des pasteurs ou des frères et sœurs, ou par exemple le témoignage du frère aussi, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, Dieu seul le sait, mais est-ce que parfois il n'y a pas un risque quand même de mettre une étiquette sur des gens parce qu'ils auraient pu effectivement dévier, ou la recherche de puissance, comme on a pu le voir, ou placer leur foi dans ailleurs qu'en Dieu, tout en sachant quand même que s'il y a des déviances claires, elles doivent être, non pas condamnées, mais au moins dénoncées. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque d'attribuer la sorcellerie à de diverses manières et de ne pas forcément maîtriser l'impact que ça peut avoir sur la vie des gens, quoi?
Non, moi je pense qu'on a détaillé. Hier, on a détaillé, on a expliqué qu'il y avait des pactes qu'on pouvait faire pour avoir certaines puissances et que ces pactes nous amenaient à trafiquer d'abord inconsciemment avec les esprits et certains consciemment avec des esprits. Comme un voyant, il le sait qu'il trafique consciemment avec les esprits. Mais quelqu'un qui a pris de la magie pour avoir les femmes, il ne sait pas. Lui sait qu'il va verser son parfum sur lui, mais en réalité, c'est des esprits qui vont agir sur ces femmes-là. Lui ne le sait pas, mais il trafique déjà avec des esprits. Après, il y a un stade de ce qu'on appelle les voyages astro. Ça veut dire que l'homme, esprit, corps, âme, son esprit arrive à sortir, aller dans des endroits et faire des choses. Après, ça peut être inconscient dans un premier temps, et puis le devenir. Mais maintenant, quand tu dis il y a un risque, non, souviens-toi de ce que Christian a posé comme question. Il a dit, mais l'apôtre Paul inscrit la magie dans les œuvres de la chair. Tu t'imagines, l'apôtre Paul, il est encore plus fort que moi, parce qu'il inscrit ça dans les œuvres de la chair. Donc, le fait qu'on prenne de l'huile, on dise à quelqu'un, j'ai prié sur cette huile, tu vas te la mettre tous les jours pendant un mois, c'est de la magie. C'est là justement on doit être sévère parce que ces choses-là, quand ça s'envenime, ça fait des dégâts très graves.
Okay,
voilà. Donc, on doit être sévère, on doit appeler les choses par leur nom. Donc c'est déjà ces œuvres de la chair, c'est déjà de la magie. Mais maintenant, quand on parle de sorcellerie, mais comme même en droit, on dit à force d'avoir des témoignages, ça devient fonction de preuve. Donc quand il y a trop de témoignages sur le comportement d'une personne qui est comparable exactement à un comportement de magicien, ça fait office de preuve. Donc après, aujourd'hui, il n'y a qu'un homme pour dire lui-même qu'il est sorcier, pour qu'on sache exactement. Tout ce qu'on peut dire sur quelqu'un, c'est ce que nous pensons et que Dieu confirmera d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que on a essayé un peu de détailler et pour expliquer aussi les tendances en Afrique, quand on dit sorcier, on voit tout de suite un tueur, un assassin qui voyage la nuit. Voilà. Mais en Europe, c'est pas ça. En Europe, quand tu trafiques déjà avec les esprits, on peut t'appeler sorcier. C'est ça la terminologie européenne. Donc, y a des écoles de sorciers en Angleterre. Il suffit que tu aies un livre, on t'apprend à faire certaines formules qui désenfroutent les maisons, qui libèrent certaines maladies. On te qualifiera, on te donnera le diplôme de sorcier. Donc, alors que au départ, tu es entré dedans, pas pour tuer, mais pour faire le bien. C'est ce qu'on appelle la magie blanche. Mais ces gens qui finissent les cours de magie blanche, on les donne leur diplôme de sorcier. Donc, moi, je pense que... chacun doit être responsable de ce qu'il dit. Voilà. C'est tout. Donc, qu'on n'appelle pas sorcier quand Dieu ne nous a pas convaincus. Voilà. Mais si quelqu'un dit que Dieu l'a convaincu, mais qui peut l'empêcher de le dire? Voilà. C'est ça aussi, quoi. Donc, savoir chacun qui l'a convaincu, comment il a su. Donc, chacun est responsable de ce qu'il pense de l'autre. Voilà. Mais qu'on ne fasse pas les choses à la légère, mais qu'on soit conscient de ce qu'on dit. Oui.
Oui, j'avais deux ou trois questions. Je ne sais pas comment c'est deux, c'est trois. Je vais voir comment je vais répartir. J'allais demander, parce que là, on vient de parler des délivrances. J'allais demander, les gens qui font, par exemple, des délivrances, est-ce à partir de combien de fois qu'on peut dire, parce que je ne sais pas, les démons, ils peuvent mentir plusieurs fois. Ou à partir de combien de fois on peut, comment dire, confirmer que non, c'est vrai, la personne est dedans. Ou quand vous faites les devants, vous dites que bon, c'est sorti même 1000 fois, bon, on continue de prier.
Alors, il y a une chose quand on dit que les démons peuvent mentir. Moi, je dis ceci, les démons, s'ils n'ont pas menti à Jésus, Jésus a dit que nous ferons les choses comme lui. Donc, si un esprit parle à travers une personne et répond à un nom, nous considérons que ce qui est dit est vrai parce que nous, on considère qu'on est des disciples de Jésus et ce qu'il a fait, nous faisons pareil. Maintenant, nous ne voulons pas faire de la délivrance une Bible. Il n'y a qu'une seule Bible. Donc, ce qu'on a entendu lors d'une délivrance, nous mettons ça dans un placard et nous disons à Dieu, ben, c'est à toi de confirmer. Et souvent, il y a eu des confirmations physiques. Un exemple, on prie pour quelqu'un. Sa maman ou son père qui habite un autre pays répond dans la personne et dit son nom. Dès qu'on finit la délivrance, coup de fil, la personne décroche, c'est sa maman là, c'est son père. Donc on a eu des cas de preuves physiques lié à ce qu'on vient de vivre dans le spirituel. Parce que nous tous, nous sommes des humains. Il y a des moments où tu dis, mais non, ça c'est rigolo ça. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Mais Dieu nous a toujours, en général, confirmé physiquement ce qu'on vivait spirituellement. Ça c'est un point. Mais maintenant, je répète, les délivrances ne sont pas la Bible. D'ailleurs, si on en faisait la Bible, on dévierait. Donc c'est une information qu'on entend, on met dans le placard, et on attend la suite des événements. Et puis, on se laisse conduire par Dieu pour la suite. Voilà.
Oui. Bon, j'allais demander aussi, par exemple, parce que là, vous avez parlé, vous avez dit que bon, les gens qui sont dans la sorcellerie, des fois, c'est compliqué pour se repentir parce qu'il y a l'orgueil qui vient, il y a toutes ces choses-là. Bon, moi, je me dis, le fait que parce que aujourd'hui, il y a quand même des gens qui se sont repentis. Donc, je me dis, si c'est pas, ils n'ont pas ce courage-là ou cette force-là de dire, comment d'avouer. Si il y a, d'un autre côté, il y a l'orgueil. Bon, si de notre côté, ils n'arrivent pas à parler. Parce que, bon, là, on s'est dit, on est dans un pays c'est pas considéré comme grave, je sais pas quoi. Ils pouvaient, parce que, bon, moi, je parle de ce que moi, je connais. Donc, ils peuvent s'afficher parce que moi, j'ai comme l'impression que c'est toujours caché. On veut faire comme si on était autre chose. Or, c'est
mais,
ça.
Mais quand tu dis qu'on est dans un pays, mais c'est pas la réalité. On est dans un pays où les choses sont différentes. Quand on dit sorcier, ce n'est pas grave comme on est en Afrique. Mais au milieu de nous, il y a beaucoup d'Africains qui ont toujours les mêmes réactions de leur pays d'origine, hein. Donc c'est le pays est comme ça, mais au milieu de nous, ce n'est pas à 100% comme ça. Voilà.
Oui, oui, j'allais dire, par exemple, ils ne disent pas comment dire ce qu'ils font, parce que je me dis d'un côté, s'il y a des gens parmi nous, je ne sais pas, je sais. Je me dis d'un côté, ils savent quand même que ce qu'ils font dans les ténèbres, ce n'est pas bien... S'ils n'ont pas ce courage-là de le dire comme ça, ou soit d'avouer que non, ils font ça, ils sont ministres, je ne sais pas quoi, ils sont rois. S'ils n'ont pas ce courage-là, c'est que je me dis, quelque part, dans leur conscience, ils réalisent quand même que c'est des choses qu'ils font, c'est des choses qui ne sont pas bien. Donc,
mais ça, ils le savent.
Oui,
on n'a pas dit qu'ils ne savaient pas.
Oui, mais pourquoi ils ne se convertissent pas? Pourquoi ils s'éclairent? Je sais pas.
Mais c'est la même chose que les voleurs, Nancy. Pourquoi les voleurs ne se convertissent pas? Pourquoi les politiciens ne se convertissent pas? Pourquoi? Mais ça, c'est l'humanité. C'est ça qu'on va expliquer demain. On va expliquer que la vraie raison est charnelle. La vraie raison, ce n'est pas le fait de trafiquer avec le monde des esprits. La vraie raison, c'est toujours charnelle. Mais il faut savoir que l'enfer sera beaucoup plus rempli des autres groupes que les sorciers. Donc, il y aura des voleurs, il y aura des menteurs, il y aura tout ça. Mais tous, c'est des gens aussi qui ne se convertissent pas. Il y a des orgueilleux qui iront en enfer, mais ils ne sont pas sorciers.
Oui, je disais ça dans le sens où, par exemple, si encore on peut me demander si je suis sorcière, entre guillemets.
Mais
si on me demande de par exemple, d'échanger, je sais pas, ou si je suis dans un parti politique, on me demande d'échanger un autre parti, d'échanger, là c'est autre chose. Mais je sais pas, quand on propose Jésus, c'est quelque chose, on voit que c'est, je sais pas, il n'y a que de bonnes choses.
On revient au même problème, Nancy. La Bible dit, large est le chemin qui mène à la perdition, et étroit est le chemin qui mène aussi. C'est la même règle pour toutes les catégories de péchés. La sorcellerie n'est pas une exception. Il y aura toujours peu de sorciers qui se convertiront, et il y aura toujours peu de voleurs. C'est la même règle qui s'applique à tous les domaines du péché. Donc, ce n'est pas une exception. Mais on a expliqué tout simplement qu'en Afrique, c'était beaucoup plus compliqué, vu les conséquences d'avouer qu'on est sorcier, et qu'en Europe, c'est beaucoup plus facile, parce que quand on avoue qu'on est un sorcier, il n'y a pas un cliché hyper négatif. C'est négatif, mais ce n'est pas hyper négatif, alors qu'en Afrique noire, notamment, c'est... Un cliché tellement hyper négatif qu'il y en a qui ont peur de dire qu'ils le sont pour se convertir, parce qu'ils savent qu'après on les regardera de travers, il y a toutes sortes de choses. Voilà. Donc, mais c'est la même chose par rapport à tous les domaines de péché en ce qui concerne la conversion. Il y a toujours peu de gens.
Oui, j'allais dire encore, par exemple, au milieu de nous, on sait que dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de choses du genre. Les visions, j'ai telle vision, tel songe, tout ça, j'ai une révélation, des choses, une prophétie. Parfois, comment dire, on doit discerner, oui, mais par exemple, quand par exemple, j'ai la confirmation dans mon cœur que la personne n'est pas bien, Dieu m'a confirmé dans mon cœur, et la personne vient me voir pour une vision, et que je dis, amen, on va prier. Est-ce que c'est une porte d'entrée pour faire quelque chose, c'est un lien où...
Ah non, pas du tout. Je ne dis pas amen. Je dis, bon, tu as eu la vision, je vais prier pour savoir la signification de Dieu. Voilà. Mais c'est pareil, même si ce n'est pas un sorcier, même si c'est un homme qui n'est pas un sorcier qui t'amène une vision, c'est la même réaction qu'on doit avoir. On va prier pour savoir la volonté de Dieu. Donc, il y a plein de choses. C'est nous qui avons fait de sorciers un cas spécial. Mais c'est un cas de péché. Comme beaucoup d'autres, c'est spécial pour les conséquences que ça a sur l'homme et sur la terre. Mais en termes de méchanceté, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont méchantes sans être sorcières, dans le sens de faire des voyages astraux ou autres. Donc c'est pareil. Donc quand quelqu'un amène une vision, qui qu'il soit, ben on dit on va prier pour savoir la signification.
Oui, bon, je dis ça parce que bon, quand tu dis qu'il y a des autres personnes qui sont méchantes, ben, la personne, je sais que la personne n'est même pas. C'est, la personne me montre clairement. La personne me dit que non, je vais te tuer, c'est clair. Mais pas toujours. Oui, mais on sait quand même que la personne a. Parce que c'est pas pareil, on sait quand même que la personne a quelque chose. La personne ne te parle pas, ne te salue pas. Mais c'est pas dans le cas de la sorcellerie. Tout le monde est gentil. Donc tu ne sais pas ce qui est derrière. C'est pas pareil. Dans ce
non,
sens-là.
Je crois que. Quand tu sais, parce que tu viens de dire que tu connais la personne, Dieu t'a mis dans ta cœur que c'est vraiment, il est sorcier. Donc tu le sais. C'est comme le méchant aussi que tu sais. Là aussi tu le sais. C'est pareil. Donc tu dois réagir de la même manière. Ben on va prier. Donc il faut qu'on... Parce qu'il ne faut pas que dans le traitement du problème, on soit différent parce que tous ces humains-là sont pécheurs, comme les voleurs. Comme... Donc il faut que dans le traitement de leurs problèmes, on soit identique aussi. Il faut qu'on les aime, il faut qu'on pense qu'ils veulent changer. Il faut qu'on ait la même attitude qu'on a avec tous les autres méchants. Il y a des gens qui sont jaloux et qui peuvent te tuer et aussi à cause de leur jalousie, à cause de leur comportement. Donc il faut qu'on soit dans une même attitude d'indulgence envers les sorciers autant qu'avec les autres pécheurs. Donc il ne faut pas qu'il y ait des traitements différents.
Ok, donc... parce que bon, là, quand vous avez le premier jour, vous avez dit que ça peut se communiquer par. Parce que là, bon,
j'ai dit le mode d'action. Ils agissent, ils ont besoin de points de contact. Et ils agissent pas forcément pour donner la sorcellerie, ils agissent aussi pour affaiblir. Oui, affaiblir un chrétien, affaiblir un pasteur, faire tomber les gens. Voilà, les modes d'action. Après, à la longue, ça peut conduire peut-être à la sorcellerie, mais pas toujours, pas forcément.
Donc, ils peuvent, c'est des modes d'action. Donc, par exemple, je vais poser la question clairement. D'accord.
On attend que
par
ça.
Par exemple, dans le cas de Thierry, il a dit que ça a été dit plusieurs fois. Donc là, vous lui demandez de prier pour qu'il ait la confirmation. Donc, les gens qui sont au courant, parce que là, il a dit, hein, il a parlé, tout le monde est au courant. Donc là, il faut, comme on attend la confirmation de Dieu, je ne sais pas s'il y a déjà la confirmation, on attend où Dieu
va. Mais la confirmation viendra de qui? Pas de moi, de Dieu.
Voilà, on attend la confirmation de Dieu. Bon, les gens qui n'ont pas encore la confirmation dans leur cœur, il faut avoir une attitude, avoir quelle attitude?
Comme Jésus nous a dit, d'aimer tout le monde, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le problème.
Non, je voulais dire, il faut qu'il y ait une. Bon, je ne sais pas si je me fais comprendre, j'ai du mal un peu avec les Français.
Oui, mais il faut parler clairement.
Oui, je sais pas, bon, j'ai du mal un peu avec les Français, bon, je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans le sens où, comme on a dit, bon, voilà, le thème c'est la sorcellerie. On a parlé de ça, et donc le fait qu'il a donné l'exemple, tout ça. Donc je me dis, bon, comme on attend la confirmation de Dieu, si Dieu ne m'a pas encore donné...
Qui attend? Toi, tu attends. Mais je ne comprends pas. Mais...
Non, je parle des gens qui attendent la confirmation de Dieu.
Voilà, des gens qui attendent.
Gens qui attendent la confirmation de Dieu, est-ce qu'ils doivent, comme ils attendent, Dieu n'a pas encore dit c'est vrai, il est dedans ou non.
Pour ces gens-là,
est-ce qu'ils doivent avoir un esprit de vigilance ou se dire toujours que non, ou être toujours vigilant?
Non, moi, ta question, ça me permet de revenir à un point très important. Le chrétien marche par la Bible. C'est la Bible qui est le mode d'action des chrétiens, c'est ça, c'est la référence. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit des versets qui sont valables pour n'importe quelle catégorie, pour n'importe quel endroit. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Le même Jésus dit dans sa parole que je vous envoie comme des brebis au milieu de loups, soyez prudents comme des serpents et doux comme des colombes. Appliquons ces versets à tout l'univers, à toutes les personnes, ne faisons pas de discrimination. Les mêmes versets s'appliquent à tout le monde. Donc moi, c'est tout ce que je peux te répondre. C'est la Bible. Utilise les versets de la Bible et applique ça à tout le monde. Il n'y a pas à appliquer un verset pour les voleurs et un autre pour les menteurs et un autre. Tous les versets sont applicables à tous. Tout ce que je peux te dire, c'est celui-là. Jésus avait un trésorier voleur dont il disait que c'était un démon. Mais il lui a appliqué tous les versets. Voilà. Donc c'est suivons l'exemple de Jésus lui-même. Il n'a pas dit, puisque tu es voleur, je t'enlève le poste. Non, il a dit, tu es voleur, mais mon père veut que tu sois là. Ben, tu restes là. Voilà. Donc, on peut avoir affaire à un sataniste, mais Dieu veut qu'on l'assiste dans quelque chose. Voilà. Alors, donc moi, il n'y a pas de verset exceptionnel pour ce genre de personnes. C'est le même verset pour tous. Voilà. Oui.
Alors moi j'avais deux petites questions. La première c'est, donc on a parlé des personnes qui savent à un moment donné se retrouvent toujours dans un endroit et puis qu'on suppose qu'il y aurait quelque chose de spirituel. Et maintenant ce que je voudrais savoir, si par exemple on fait toujours un songe sur une personne tout répétitif, quoi, je veux dire tu rêves tout d'une personne, soit elle t'attaque ou soit elle te séduit. Comment tu expliques ça? Est-ce que c'est la personne elle-même ou là, effectivement, il y a une sorcellerie derrière?
Oui, donc il y a la personne elle-même, donc c'est-à-dire la personne qui rêve.
Non, qui vient se présenter dans les rêves.
Oui, mais c'est ça justement. Donc il y a une possibilité, c'est que cette personne-là a des puissances occultes et qui veut avoir avec ta vie, donc qui a une mission sur ta vie. La deuxième possibilité, soi-même aussi, on peut avoir un problème par rapport à cette personne-là. Donc c'est aussi envisageable. Donc en fonction de notre cœur, l'ennemi peut jouer aussi, nous créer des images sur les autres. Donc il y a cette deuxième possibilité. Il y a la troisième possibilité, c'est que Satan peut utiliser une image de quelqu'un pour vouloir nous atteindre. Mais maintenant, quand c'est trop régulier, là on doit demander Seigneur. On doit à un certain moment dire Seigneur, mais la vérité, qu'est-ce qui se passe? On veut savoir. Et moi, si on applique la Bible, bien aimé, on serait les hommes les plus heureux et tranquilles. Parce que la Bible dit dans Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées. Du moment que quelque chose commence à devenir flou, Seigneur, éclaire-moi toi qui vois tout. Voilà. Et il nous éclairera.
Et la deuxième question, c'est par rapport aux délivrances. Je voudrais comprendre comment une personne qui passe tout le temps en délivrance, et qu'à un moment donné, en fait, ça ne s'arrête jamais, quoi. Et est-ce que l'ennemi sait qu'à un moment donné, le fait de l'attaquer, il va tomber, ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe?
On ne peut pas, ce n'est pas un domaine qu'on maîtrise totalement. Nous tous, nous constatons ça. Ce que je peux dire, moi, en tant que chrétien, qu'est-ce que je dis? Dans ma vie, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Donc, ce que je vis, c'est la volonté de Dieu. C'est tout. Je ne peux pas croire que l'ennemi soit plus fort que Dieu. Donc, je suis plus chrétien. Donc, pour moi, tout est géré par Dieu.
Je veux dire, l'état spirituel même de la personne.
Parce qu'en termes de fruits du Saint-Esprit, on va constater qu'il y a des plus mauvais que lui, mais qui ne passent pas la délivrance comme ça. C'est pour dire que c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Donc, je me dis, ce qui est caché est pour Dieu, ce qui est révélé est pour moi. Donc, on prie, Seigneur, pourquoi tout le temps telle personne passe à la délivrance? S'il ne nous l'explique pas, on continue à prier, on ne va pas s'arrêter. Oui, donc, moi, j'ai dit, donc, il ne faut pas,
Mais on dit, Dieu est bon quand même, pasteur. Des fois, c'est épuisant quand même pour
mais
une personne.
Mais pourquoi toi, tu crois que cet épuisement-là est mauvais pour la personne?
Donc,
Dieu est bon, donc c'est que cet épuisement-là lui est favorable.
Oui, mais
on le saura plus tard. Parce que beaucoup ont été ressuscités. Ils étaient morts. Beaucoup ont été guéris de maladies extraordinaires. Ils sont retombés, ils sont en enfer aujourd'hui. Peut-être si ça s'était fait progressivement, ils auraient eu le temps de changer vraiment. Mais ils ont pris la guérison vite, ils ont pris la résurrection vite, la délivrance vite. Ils ont cru qu'ils étaient bons, forts, et ils sont retombés. Alors que peut-être quelqu'un, Dieu connaît son état d'orgueil, il connaît son état de dépendance par rapport aux choses de ce monde. Il permet de l'humilier, de le piétiner, de le saurer, pour qu'il n'ait plus envie de se dire « je suis quelqu'un ». Et le jour de sa délivrance, il est humble et il ne retourne pas en arrière. Combien de gens sont retournés en arrière? Combien de gens ont fait naufrage à la foi?
Donc, par rapport à notre délivrance, Dieu regarde toujours au cœur. C'est selon ton...
Pour moi, c'est la volonté de Dieu. Parce que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai dit que je ne suis pas pasteur par moi-même. Je ne suis pas chrétien par moi-même, c'est lui qui m'a fait de moi un chrétien. Il a dit dans sa parole, tout concourt pour notre bien. Donc, admettons que moi, on me délivre régulièrement, alors que moi, j'ai dit au Seigneur, je t'ai donné ma vie. Ben, je considère que c'est lui qui permet ça. Et je continuerai à prier jusqu'à ce que cela finisse, on persévérera. Voilà. Donc, moi, je considère que c'est la volonté de Dieu et j'apprécie cela. Il sait comment faire, il sait ce qu'il fait. Oui, sœur Maud.
Pasteur, quelle est la différence entre un occultiste, un sorcier et un sataniste?
Alors, la différence dépend des zones, dépend des gens, dépend de là où on est. Dans le domaine de la sorcellerie, par exemple, à l'européenne, on considère que quand quelqu'un fait des cours de sorciers dans des écoles de sorciers, parce que ça existe, c'est ça qui est rigolo. Donc, ça existe. Et on lui dit, les satanistes, c'est des méchants. Nous, les sorciers, nous apprenons des techniques pour faire du bien aux gens. Les satanistes, et dans la sorcellerie, on leur dit que Satan n'existe pas. Hein? Attention. Satan, ça n'existe pas. En première année. Et en deuxième année, on leur dit, c'est tout ce qui est contraire au bien. Et en troisième année, on leur dit qu'il existe vraiment. Bon, voilà, ça c'est pour l'anecdote. Donc c'est le témoignage d'un sorcier, donc quelqu'un qui a fait toutes sortes de cours de sorciers, toutes sortes de magies, toutes sortes de pratiques, qui raconte ça dans son livre. Et donc, dans leur monde à eux, on leur dit les satanistes sont mauvais. Mais quand tu arrives, tu deviens professeur, on te dit les satanistes, c'est la même équipe que nous. Donc c'est pour te dire, en réalité, sorcier, sataniste, pas de différence. Maintenant, occultiste, eh ben, c'est un mot qui est plus large, qui comprend les gens qui font des pactes aussi simples. Ils sont déjà dans l'occultisme. Donc, occultisme, c'est plus large que tout ça. Ça comprend tout ce qui est trafic, tout ce qui est contact avec le monde invisible. Voilà.
Et y a-t-il des niveaux dans la sorcellerie? Y a-t-il un petit sorcier et un grand sorcier? Tout simplement,
il y a des niveaux de puissance, effectivement. Il y a des niveaux de puissance. Ils n'ont pas tous la même puissance. Et donc, oui, je te dirais oui. Il y a des niveaux. Il y a des petits sorciers. Il y a des grands aussi. Mais seulement, quand Satan te dit que tu es caporal, peut-être en réalité, tu n'es que... en dessous de caporal, c'est quoi? Fantassin. Donc, admettons, tu n'es que simple fantassin. Lui te dit que tu es caporal. Quand il te dit que tu es général, en réalité, tu n'es que lieutenant. Donc, il ment tout le monde. Mais... concrètement, quand ils se mesurent, il y a un plus fort entre les sorciers. Quand ils se mesurent, il y a des plus forts. Donc on peut dire qu'il y a des niveaux différents à partir de cela. Non pas à partir des titres que Satan leur donne, parce qu'il peut leur mentir. Aujourd'hui, Satan peut te faire croire que tu es plus fort qu'une telle personne. Le lendemain, il lui donne une force plus grande que toi et il te tue. Donc par rapport à ce que Satan dit, on ne peut pas savoir. Mais par rapport à leur propre combat, ils savent que tel ou tel autre est plus fort que moi. Voilà. Ah là là, les questions. Oui.
En fait, le problème de la magie ou de la sorcellerie, c'est pour l'homme, c'est le désir de contrôler. C'est le désir de pouvoir.
Voilà, c'est le plus grand
problème.
Base. C'est la base. D'accord. Vraiment, c'est la base.
Mais alors, par exemple, quand tu considères, par exemple, la sociologie, l'étude du comportement, après, ce qu'on en fait, parce qu'on se sert des études de sociologie pour influencer les gens dans les modes, pour les influencer dans différentes choses. En fait, on prend le pouvoir, on prend le contrôle sur les gens.
Oui, mais la sorcellerie, quand même, va dans le contrôle du monde spirituel. C'est là où, alors que les gens de mode étudient l'homme, ils voient comment l'homme se comporte à tel, dans tel domaine. Eh bien, si on le... C'est comme quand on a demandé à JR de Dallas, quel est le secret de Dallas, il a dit... comment? J'ai oublié le... Il a dit, c'est toujours ça, le sexe, l'argent... Et le pouvoir, voilà. Il a dit ça marche toujours. Voilà. Donc parce qu'on a étudié l'homme, on a vu que ça marchait toujours avec ça. Donc c'est ça. Ça c'est, oui, c'est des prises de contrôle, mais qui demeurent dans le niveau observation humaine. Mais alors que la sorcellerie dépasse, va dans le spirituel, il veut prendre des contrôles dans le monde spirituel. Mais la première prise de contrôle, quand on ne fait pas attention, ça finit toujours dans la deuxième prise de contrôle. Oui.
Tantôt, le frère parlait de l'huile d'onction. Quand on parle de faire l'onction d'huile dans nos maisons, est-ce que c'est mal?
Ponctuellement, si le Seigneur nous pousse à le faire.
OK. Parce que ce n'est pas nécessairement écrit dans la parole de Dieu non plus.
Ça aussi, mais tout n'est pas écrit nécessairement. Mais on ne peut pas non plus, parce que tout n'est pas écrit, rejeter. Mais c'est comment dire, le flair, comprendre qu'est-ce qui est caché derrière la personne qui me donne une bouteille d'huile pour que je m'en asperge tout le temps. C'est le déni carrément du fait que la prière me protège. C'est le déni que le nom de Jésus me protège. Alors qu'on peut recevoir un message ponctuel, je suppose, hein, je ne dis pas que je le fais, mais on peut recevoir un message ponctuel, on dit symboliquement, prophétiquement, comme on voit dans l'Ancien Testament, il y avait des actes symboliques à accomplir pour que la volonté de Dieu se fasse. Donc, symboliquement, mettre l'huile en signe de ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël sur les linteaux, là, je peux comprendre ponctuellement. Mais quand ça devient régulier, là, déjà, on est dans des complications.
Comme voilà. La superstition.
Voilà.
Chose.
comme la superstition ou... Oui, tu peux y aller.
D'accord. Moi, je voulais justement poser une question par rapport à ce que la sœur Ginette vient de dire et par rapport aussi à ce que le frère Jean-Noël a évoqué par rapport à l'unction. Est-ce que une mère, par exemple, des parents, un parent prophète qui donne, par exemple, de l'huile d'onction à son enfant qui part à l'étranger, par exemple, pour longtemps, juste pour, en cas de maladie, des trucs comme ça.
Magie.
D'accord. Oui.
Donc, il y a le nom de Jésus qui suffit, quoi. Oui, oui. Mais il faut... On rigole, mais il y a des gens qui vendent à distance cela. Sur Internet, il y a des pasteurs qui vendent des morceaux de tissu. Ils te disent, envoie un morceau de tissu. Donc, il y en a qui envoient même la Sainte-Seine par la poste. Mais c'est vrai, c'est vrai. Ils t'envoient donc un petit paquet avec deux verres et du vin. Donc, la Sainte-Seine par la poste. Donc, on ne peut pas cautionner de telles choses. Donc, parce qu'en se taisant, petit à petit, ça va nous atteindre sans qu'on nous en rende compte. Donc, vous savez, pour vivre, il faut penser à repousser ce qui est mort. Si tu te dis que je vis, je ne m'occupe pas de ce qui m'entoure, ah ben, ça finira par t'asphyxier. Oui, il faut repousser les frontières.
Pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport aux Pokémon et aux films du même genre, est-ce que c'est des points de contact ou c'est des choses qui, à terme, peuvent nous faire tomber dans ce genre de choses?
Mais oui, c'est des points de contact que lorsque on se laisse faire, ça nous fait entrer dans la sorcellerie. Beaucoup d'enfants sont entrés dans la sorcellerie à partir de ça, parce qu'il y a des films japonais aujourd'hui où on voit clairement l'esprit sortir, dans les dessins animés, l'esprit sortir et va se battre quelque part et revenir. Moi, je l'ai vu à la télé. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est vraiment ça, la sorcellerie. Et le but, c'est quoi? On l'a dit hier. Le but du diable, à travers la sorcellerie, c'est d'avoir une emprise directe sur nous, sur l'humain, comme un fil. Il a un fil, maintenant il le tire. Alors que sans la sorcellerie, il n'a pas une emprise directe, il peut juste manipuler et tromper grâce au péché. Mais avec la sorcellerie, il a une emprise directe comme un fil, et c'est ça qui l'avantage quand même. Et il va vouloir que nous tous les humains, on tombe petit à petit dans ça. Comme ça, ça va servir à ses projets. Quand il aura une idée dans le futur, on n'aura pas du mal à accepter ses idées. Alors que lorsqu'on est humain, toujours sans sorcellerie, on a quand même un peu de volonté propre pour dire non, quoi. C'est ça la grande différence. Et donc, ils veulent nous généraliser la sorcellerie pour permettre à l'Antichrist de bien régner, parce que sa pensée ne trouvera pas beaucoup de résistance.
Je voulais savoir par rapport à l'huile, est-ce qu'on peut utiliser n'importe quelle huile ou bien il faut seulement utiliser l'huile que les gens disent qui est l'huile d'onction?
Mais quelle huile d'onction?
Non, c'est la non, tout le temps les gens disent c'est l'huile d'onction et c'est des bouteilles, disons, je trouve que c'est exceptionnel.
Ah non, c'est...
Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quelle huile?
Oui, pour moi on peut utiliser n'importe quelle huile.
Ok. Ma deuxième question, c'était...
Mais si on est un peu attaché à ce qui est ancien, on se dit, bon, autrefois, il faisait avec l'huile d'olive, bon, on fait... Mais sinon, on peut utiliser n'importe quelle huile. Vas-y, oui.
Je voulais savoir la différence et, disons, le travail que fait un sorcier, parce que souvent, en Afrique, on dit, il y a des gens qui prennent des prétextes en disant, non, mais lui, il est sorcier, mais il protège. Quelle est la différence entre un sorcier qui tue et un sorcier qui protège?
Oui, mais c'est ça la magie blanche et la magie noire. Au début, on a l'impression qu'il y a une différence. Après, tu vas voir que ce chef coutumier qui est censé protéger, ben, avant de devenir chef coutumier, il faut que des enfants soient sacrifiés. Il faut que les humains soient sacrifiés. Donc, c'est comme si lui l'a sacrifié pour un bout de temps. Pendant 5 ans, il a sacrifié 15 personnes. Après, il commence à protéger d'autres sorciers. Mais en réalité, s'ils s'entendent, donc lui, on lui offre un bakchiche, eh bien, il laisse le sorcier dont il était censé te protéger, te bouffer, hein, sans problème. Hein. Donc, c'est le même monde. Bref, c'est le même monde. C'est des rigolades. Ils sont dans le même monde.
Okay. Et comment ça se fait que, bon, je sais que c'est pas étonnant, mais il y a des sorciers qui bouffent d'autres sorciers, en fait.
Oh, mais il y a des animaux qui mangent d'autres animaux. Leur but, c'est de manger, ils mangent, quand ils peuvent manger. Ce n'est pas une question de que tu sois non sorcier ou pas. Dès qu'ils ont l'occasion, dès qu'il n'a plus d'humain à manger, c'est souvent dans les familles, dès qu'il n'a plus un membre de famille, il a mangé trop de membres de famille, et puis les autres maintenant prient, il lui manque, il va se retourner entre eux. Il se retourne entre eux. Hein. Ah oui, entre eux. Oui.
En fait, je voulais savoir justement concernant les noms, parce qu'on peut avoir des noms qui ont des héritages en fait, par exemple négatifs, tout ça. Donc, tu deviens chrétien, que faut-il en fait, que faut-il faire par rapport à ce nom?
Oui, déjà, puisque les procédures administratives sont longues, tu peux déjà te faire appeler par un autre nom, comme on voit dans la Bible.
Si
tu as un nom, par exemple, Boa. Donc, tu changes, tu te donnes un autre prénom, Jacques, Pierre, tout ça, et puis voilà. En attendant que tu le changes sur papier. Mais on rigole, mais il y a des gens qui ont ce nom-là. Dans certains pays, parce que ici c'est pas le cas, mais dans certains pays il y a des gens qui ont ce nom-là.
Ouais, parce donc, pour moi, par mon cas, moi j'ai deux noms en fait. J'ai mon nom, c'est Mbumba, ça veut dire serpent.
Oui, mais je sais, donc, c'est pourquoi je n'ai pas voulu dévoiler ça. Mais toi-même, tu le dis. Mais c'est ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Voilà, donc il faut déjà se faire appeler par un autre nom, jusqu'à ce qu'on change ça lors d'un jugement au tribunal.
Et pour changer justement pour le nom, est-ce que c'est Dieu qui te révèle ou bien tu décides de prendre un nom comme ça?
En tout cas, tu peux décider, hein, du moment que tu prends quelque chose de bon. Mais je te propose de prier d'abord, que Dieu te révèle. S'il n'y a rien, mais tu peux décider toujours. C'est pour éviter tout le temps d'attendre des révélations, donc compliqué. Oui, donc c'est... Ça y est, c'est la... Ah, il y a une question encore, d'accord.
Au fait, c'était pour savoir, par rapport à la magie, j'ai entendu parler de la magie également rouge. Et je ne sais pas si c'est...
La magie quoi, pardon?
La magie rouge. Je ne sais pas si c'est pareil avec la magie blanche ou bien c'est...
Non, tout ça, c'est des noms différents. C'est comme le football, on appelle ça aux États-Unis soccer... en France, au football, en espagnol, football, je ne sais pas, peut-être c'est ça. C'est les mêmes choses. Il y a la magie mayas, tout ça, c'est la magie qui aime le sang. Or, toute magie aime le sang. Donc, pour rendre ça un peu exotique, quoi. Mais sinon, c'est la même chose. C'est le même monde, oui. Oui.
La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. En général, les autorités qui sont en Afrique, bon, dans le monde, ou en l'occurrence en Afrique, sont souvent des sorciers ou ils sont des magiciens. Je souhaiterais savoir, est-ce que, en général, toute autorité en Afrique, ils pratiquent tous? Parce que moi, je connais par exemple une personne qui, moi, je sais qu'il prie en esprit, en vérité, mais il a réussi à occuper des postes très importants dans sa vie. Est-ce que c'est Dieu qui le protégeait réellement ou il avait d'autres pratiques à côté? Parce que moi, je sais que cette personne l'a pris en esprit et en vérité.
Il y a des cas exceptionnels. Quand tu as une mission de Dieu, tu peux passer comme Joseph est passé, comme Daniel est passé. Mais c'est rare. Je dois te le dire, c'est rare. En général, c'est la corruption. Mais ils sont rares, des Joseph et des Daniel, dans le milieu politique.
Parce que je parle en fait en conséquence de cause, parce que moi je connais bien cette personne-là, je sais qu'il prie réellement.
Mais peut-être que c'est un Daniel. Donc j'ai dit qu'il y en a, mais ils sont très
rares. Il a réussi à occuper des postes très 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 importants, très très haut niveau, mais il n'est pas sorcier, il ne pratique pas, il n'était pas dans ses pratiques.
C'est rare, donc ça peut être un cas. Ça peut être un cas. Mais bon, en général... La majorité est dedans, quoi. Mais c'est rare de voir quelques cas exceptionnels, des gens neutres, dans le sens où ils ne sont pas dans la sorcellerie, mais ils se font manipuler, ou alors des gens qui prient. C'est rare. C'est rare, mais il y en a. On ne peut pas écarter cette possibilité.
est-ce que, pour finir, on peut dire que si tu pries réellement, ça sert à rien de vouloir occuper ce, d'être dans ce milieu-là, en fait?
Il faut y aller par appel de Dieu.
Oui, parce que si toi, tu as la conviction que c'est Dieu qui te pousse, qui te dit d'occuper ce poste-là...
Ça, c'est l'appel de Dieu. Tu ne forceras pas, tu te retrouveras là-bas. Ça, c'est l'appel de Dieu. Mais il ne faut pas faire la politique comme un métier. Un chrétien ne doit faire la politique que par appel de Dieu. Voilà. C'est comme pour toute autre chose, mais là-bas, c'est encore plus accentué, quoi. Il faut vraiment l'appel de Dieu parce qu'il y a tellement de tentations que si ce n'est pas l'appel de Dieu, tu ne pourras pas résister, quoi.
Moi, je voulais poser la question à la sœur. Est-ce que la personne, il a converti des gens tout autour de lui?
Oui, la personne a converti des gens. Je suis la preuve vivante.
Donc, que Dieu soit béni. Donc, il y a des exceptions. Ok, oui, Emmanuel? Oui, vas-y.
Pasteur, moi, je voulais savoir par rapport au milieu chrétien. Donc, bon, on voit qu'il y a en fait des sorciers en fait dans les milieux chrétiens. Et je voudrais savoir en fait, d'abord en premier temps, quel est le rôle de ces personnes?
Le rôle, c'est nous aider à être des bons chrétiens.
Amen.
Donc, le rôle de Dieu permet qu'ils soient là. Pour nous aider à être des bons chrétiens, on sait que le danger, là, tu peux te faire manger à tout moment. Donc, tu es vigilant, quoi. Donc, c'est ça le rôle que Dieu permet pour nous. Voilà.
D'accord. Maintenant, moi, ce que je voulais aussi savoir, c'est que on voit qu'il y a certaines de ces personnes qui sont dans le milieu chrétien depuis longtemps. Moi, j'ai même une personne dans mon entourage que je connais qui se vantait d'être... dans le groupe d'intercession de notre pays d'origine. Et on sait que, bon, le président est dans la sorcellerie. Et cette personne, en fait, arrivait à un niveau où... C'est une femme, en fait. Elle arrivait à un niveau où elle va dans les assemblées et elle contrôle, quoi. Elle prend des postes et tout ça. Et je voulais savoir jusqu'où Dieu peut laisser cette personne agir.
Ah non, quand il s'agit maintenant de diriger, là, c'est ce que tu me dis là, ce n'est pas de Dieu. D'accord. Ça, c'est la faiblesse des chrétiens qui permet cette infiltration, sauf exception, comme ce fut le cas de Judas. Voilà. Donc, il y a des exceptions où Dieu peut nous fermer les yeux, permettre qu'il y ait des gens qui prennent des responsabilités, qui sont dedans. Mais la manière dont tu parles de cette femme qui fait régulièrement, là, c'est autre chose. Dieu ne peut pas laisser indéfiniment des gens comme ça, parce que la Bible dit dans Psaume au chapitre 1er, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Donc il ne peut pas permettre qu'ils soient là indéfiniment. Moi je dirais plutôt il y aura des cycles, il y aura une série de satanistes qui vont venir. Dieu va leur laisser aussi le temps pour être sauvés, écouter la bonne parole. S'ils ne comprennent pas, Dieu les dévoile et les chasse. Il y a une autre série qui vient encore. Donc, ça sera comme ça. Mais avoir une série qui va rester indéfiniment, c'est impossible quand on est dans la vérité. Donc, Dieu les sortira. Comme ce fut pour le cas de Judas, à un moment, il l'a sorti. Et ainsi de suite, ça va se faire ainsi. Donc, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui reste là, sataniste, et qui perdure. Ce n'est pas possible.
Et je voudrais aussi savoir, par rapport... c'est vrai qu'en tant que chrétien, on doit se baser que sur la parole. Et c'est bon, le Seigneur nous a donné sa parole. Mais je voulais savoir aussi, la plupart de beaucoup de satanistes ou de sorciers au milieu de chrétiens connaissent très bien la parole. Et par rapport à ça, comme c'est une question, on va dire, de compréhension, comment conduire... Enfin, je vais dire par là, en fait, comment savoir que une personne, en fait, par rapport à ce qu'elle prêche, n'est pas vrai, quoi.
Mais parce que toi, le chrétien, tu vas connaître la parole vraiment. Parce que la parole, ce n'est pas scientifique. Parce que quand tu parles, je comprends, c'est comme si la parole, elle est scientifique. Non, la parole est esprit et vérité. Amen. Même si je ne comprends pas tout, je peux sentir que là, le monsieur, même s'il il se défend par un verset, il y a un problème qui ne va pas. Un exemple, un homme, un faux évangéliste qui dit à une sœur avec qui il voulait passer un bon moment impur, un mauvais moment impur, il lui dit, eh bien, c'est écrit que l'évêque soit mari d'une seule femme. Or, moi, je ne suis pas évêque, je suis chrétien simple. Donc, on peut toujours y aller. Mais bien aimé, la sœur aussi est tombée sous prétexte de ces versets-là. Moi, j'ai dit, c'est faux. Elle voulait tomber tout simplement. Elle en a profité de mal comprendre un verset. Mais c'est tout. Mais c'est clair que même si je n'ai pas un verset clair où on dit que l'homme ne doit avoir qu'une seule femme, mais je sais que non, c'est pas bon ça. C'est des choses qu'on sait parce que la parole est esprit et vie. Même si je n'ai pas un verset pour rétorquer à un faux, je sens en moi que ce qu'il dit n'est pas bon. Donc c'est ça le vrai chrétien. Le vrai chrétien saura que ce qu'on est en train de lui proposer n'est pas bon, même s'il n'a pas les arguments de l'autre. Voilà quoi. Donc c'est ce qu'on doit retenir quoi. Dieu nous aidera. Dieu ne nous laissera pas tomber. Si on est vrai, il est toujours avec nous. Même si on ne connaît pas tous les versets de la Bible, il est toujours avec nous parce qu'on est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour négliger la connaissance de la parole. Ce n'est pas une raison pour négliger l'étude de la parole. Il faut qu'on soit des gens assidus. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et beaucoup de chrétiens sont dupés parce qu'ils ne persévèrent pas dans cet enseignement-là des apôtres. Oui. Bon. On va clôturer puisqu'on doit aussi prier. Donc, oui.
Bon, on risque de paraître bête. Tout à l'heure, le frère Amédée, il a dit « Un sorcier peut manger un autre sorcier ». Alors, excuse-moi, mais moi, je n'ai pas compris, là. Est-ce que ça existe et comment c'est possible?
Ah oui, ça existe, mais le monde spirituel marche par... la nourriture dans le monde spirituel, c'est l'homme, c'est les êtres humains. C'est le sang humain. Donc, je te jette un sort et tu meurs. C'est ça, manger.
Ah, d'accord.
Ah, voilà, c'est ça. Oui, mais dans le monde spirituel, ça se traduit vraiment par une vraie nourriture où on mange. Voilà, mais dans le monde physique, tu meurs peut-être de la prostate ou bien d'un cancer. Mais dans le monde spirituel, on te bouffe sur une table. Oui, oui.
Pasteur, je vais juste savoir, tout ce qui est occultisme, donc si j'ai bien compris, tout ce qui est franc-maçonnerie et tout ça, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie.
Ah, ça n'a rien à voir?
C'est du satanisme, c'est ça?
Oui, oui, c'est la même chose. C'est le même domaine. Mais chacun a des degrés différents.
D'accord.
C'est le même domaine. Un nouveau franc-maçon, on lui fait croire que c'est des études sociales. C'est des études, c'est des réflexions sur la société. Ça, c'est au début. Mais ensuite, il prêtera un serment devant un crâne, la lumière éteinte. Donc, ça va à mon temps. C'est des degrés différents, mais c'est le même monde.
D'accord.
Oui, oui. Okay. C'est comme quelqu'un qui va voir un voyant, il ne sait pas encore qu'il fait un pacte inconscient. Mais il commence déjà, c'est le commencement. Voilà. Ok, donc nous allons prier. Par rapport à tout ce qui a été dit, il y a des pratiques qui ont été citées et qu'on a pratiquées peut-être étant chrétien ou étant pas chrétien, mais qu'on n'a jamais confessé. Il faut qu'on confesse cela. Et si on avait des soifs de surnaturel, des soifs de pouvoir, de contrôle, toutes ces choses qui ont été citées, nous devons les confesser et demander pardon au Seigneur afin qu'on soit libérés. Prions au nom de Jésus-Christ.